Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Bienvenue dans votre émission Les yeux au ciel, 12 minutes chaque jour pour voyager à travers l'espace et le temps à la découverte des mystères et des merveilles du ciel. Aujourd'hui, cap au sud. Si vous avez un horizon sud assez dégagé, donc si vous n'êtes pas trop près des Pyrénées, vous ne pourrez pas louper l'étoile dont nous allons parler aujourd'hui, qui brille d'une lueur rouge au coucher du soleil, en direction du sud, en été. Dans la constellation du Scorpion, j'ai nommé la belle Antarès. Antarès est une super géante rouge, ce qui signifie qu'elle est une étoile massive, plus grosse que le soleil, en fin de vie. Il faut savoir que les étoiles, contrairement à nos robinets, sont plutôt rouges quand elles sont froides et bleues quand elles sont très chaudes. Antarès doit donc sa belle couleur rougeâtre à sa température de surface relativement basse d'environ 3400 Kelvin. À titre de comparaison, le Soleil a une température de surface d'à peu près 5700 Kelvin en moyenne. Antarès, c'est l'une des plus grandes étoiles visibles à l'œil nu, avec un diamètre d'environ 700 fois celui du Soleil. Elle est extrêmement lumineuse, 10 000 fois plus brillante que notre Soleil. Cependant, une grande partie de cette luminosité, c'est dans l'infrarouge, ce qui la rend moins éclatante dans le visible que ce qu'elle ne pourrait l'être si nos yeux pouvaient voir l'infrarouge. Elle est située à peu près 550 années-lumière de la Terre. Antarès a une étoile compagne, qu'on appelle Antarès B. C'est une étoile bleu-blanche de type B2. La proximité de cette étoile compagne, bien que difficile à observer à l'œil nu, peut être facilement détecté avec un petit télescope. Donc Antarès est très visible à l'œil nu. Elle a donc été repérée dès l'Antiquité. Le nom Antarès vient du grec ancien, signifiant le rival d'Arès, ou pour les amateurs de mythologie romaine, le rival de Mars. Cela fait référence à sa couleur rouge, similaire à celle de la planète Mars, les deux objets étant parfois confondus dans le ciel. D'ailleurs, savez-vous comment distinguer une étoile d'une planète? Si vous regardez plusieurs soirs de suite, vous remarquerez que les planètes se déplacent devant le fond du ciel étoilé. Leur position relativement aux étoiles se modifie donc de jour en jour, d'où leur nom, planétès, qui en grec veut dire astre errant. Enfin, de jour en jour pour les planètes rapides comme Vénus, Mercure, mais plutôt de semaine en ce qui concerne Jupiter ou Saturne. Nous en avons eu un très bel exemple l'année dernière, pendant l'été 2023, où Jupiter et Saturne sont restés tout l'été visibles. Mais en un seul coup d'œil, vous pouvez aussi distinguer une étoile du planète, à l'œil nu. Et c'est assez simple. D'une façon générale, une étoile scintille, c'est-à-dire qu'elle clignote légèrement, et une planète ne scintille pas. Ce scintillement est plus visible quand on est éloigné de toute pollution lumineuse. Ce phénomène est dû à l'atmosphère et non à l'astre. Beaucoup croiront que les étoiles produisent leur scintillement unique en raison de la variation de quantité de lumière qu'elles émettent. Alors c'est vrai qu'elles peuvent changer d'intensité comme les étoiles variables, mais la différence n'est vraiment pas assez prononcée pour que nous voyions à l'œil nu ce scintillement. Nous nous rapprochons de plus en plus de la véritable raison pour laquelle les étoiles scintillent. La clé, c'est dans notre atmosphère, et plus précisément dans la couche de gaz qui entoure notre planète et qui nous permet d'y vivre. Les étoiles scintillent car la lumière qui provient de l'étoile est déformée par l'atmosphère avant de nous parvenir. Sa capacité à réfracter la lumière permet aux étoiles de clignoter comme un phare en émettant une lumière par intermittence. Alors c'est vraiment un effet d'optique, car les étoiles ne cessent pas d'émettre de la lumière ou ne varient pas autant leur luminosité. Mais comme les étoiles sont très éloignées et qu'on ne voit que des petits points lumineux, cette distorsion se produit et s'accentue également au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'horizon. Vous aurez donc des étoiles qui vont plus scintiller proche de l'horizon, là où il y a plus d'atmosphère à traverser, que au zénith. L'épaisseur de notre atmosphère définira donc l'intensité de cette scintillation. Plus l'épaisseur de l'atmosphère traversée est faible, plus les perturbations sont faibles et plus le scintillement sera faible. Mais quand nous avons un air chargé en particules polluantes, par exemple, l'espoir sera plus grand de voir des étoiles scintiller. Alors, pourquoi ces étoiles scintillent mais pas les planètes? Les planètes, beaucoup plus proches que les étoiles, se présentent en fait comme des petits disques. Certes, ils sont très petits, mais ce sont des disques quand même. Ainsi, les variations de la lumière causées par l'atmosphère terrestre se compensent pour les différents points du disque planétaire. L'image des planètes est ainsi plus stable que celle des étoiles. Alors, une autre façon un peu plus certaine de pouvoir identifier les planètes et les étoiles, c'est d'utiliser une carte du ciel. Si vous avez une carte du ciel instantanée, par exemple sur une application, sur votre smartphone, les planètes sont clairement identifiées. Si vous avez une carte annuelle, alors elle ne comporte pas les planètes, parce que contrairement aux étoiles, elles ne sont pas toujours à la même place d'année en année. Comparez donc ce qui figure sur votre carte à ce que vous voyez là-haut. Si dans les constellations du zodiaque apparaît un point assez brillant qui ne figure pas sur la carte, c'est certainement une planète. Pour vérifier que l'astre que vous soupçonnez d'être une planète en est bien une, il suffit d'observer nuit après nuit. Si cet astre se déplace par rapport aux étoiles, alors bingo, vous avez trouvé une planète. Revenons à notre étoile Antarès. Dans la mythologie grecque, Antarès représente le cœur du scorpion que le chasseur Orion a combattu. Cette étoile s'est formée il y a des millions d'années à partir d'un nuage de gaz et de poussière. Elle fait partie des étoiles massives. Elle contient 700 fois plus de matière que notre Soleil. Mais elle la brûle aussi plus vite, comme toutes les étoiles massives. Elle aura donc une vie relativement courte. Actuellement, Antarès est une supergéante rouge, une phase où elle a épuisé l'hydrogène de son noyau et brûle maintenant l'hélium et d'autres éléments plus lourds. Cette phase est marquée par une grande expansion et une luminosité accrue de l'étoile. Antarès est destinée à finir sa vie dans une spectaculaire explosion en supernova. Cette explosion dispersera les éléments les plus lourds dans l'espace, contribuant ainsi à la formation de nouvelles étoiles et nouvelles planètes. Détaillons un petit peu ce phénomène fascinant des supernovas. Ces véritables forges du ciel qui ont enrichi au fil de leur explosion l'univers en atomes de plus en plus complexes. Alors revenons un petit peu dans l'histoire et précisément en 1604, année pendant laquelle, dans la constellation du Serpentaire, la 13e constellation du zodiaque, un grand événement s'est produit, l'explosion d'une supernova. Cet événement a été observé par le grand astronome Johannes Kepler. Il a pu voir apparaître une nouvelle étoile, Nova Stella en latin. Cette étoile est restée visible pendant près d'un an, jusqu'en octobre 1605. Alors Kepler n'a pas été le premier à voir cette supernova, car les conditions météorologiques n'étaient pas bonnes sur Prague le jour de l'apparition de la supernova. Mais en fait, il en a fait une étude si détaillée qu'on lui a donné le nom de supernova de Kepler. Cette nouvelle étoile est apparue très bas sur l'horizon. Elle aurait très bien pu passer inaperçue. Mais elle a bénéficié de circonstances fortuites très favorables. En effet, elle se situe à proximité du plan de l'écliptique. Ça, c'est la région où circulent les planètes du système solaire. Le hasard a voulu qu'au début du mois d'octobre 1604, trois planètes se situent dans cette région du plan de l'écliptique. Jupiter, Mars et Saturne. De nombreux astronomes observent donc cette région du ciel à ce moment-là pour admirer les trois planètes. En plus, le Soleil était situé à environ 60 degrés à l'ouest de cette région, ce qui fait que c'était facilement observable en début de nuit. Et enfin, la supernova s'est produite seulement 32 ans après une autre supernova, SN 1572, dont l'observation avait permis à Tycho Brahe de réfuter le dogme aristotélicien de l'immuabilité des cieux et avait suscité un intérêt important tant chez les astronomes que chez les astrologues européens de l'époque. Toutes ces raisons ont fait qu'un grand nombre d'astronomes ont pu observer, au début du mois d'octobre, cette région du ciel et noter l'apparition de cet astre nouveau. Ces observations viennent en confirmation de l'ouvrage de Tycho Brahe De Stella Nova. Il marque un véritable tournant dans l'astronomie, au début du XVIIe siècle. Il faut dire que l'apparition d'une nouvelle étoile dans le ciel remet en cause des siècles de théories astronomiques. En particulier la théorie d'Aristote qui stipule que le monde supralunaire, au-delà de la Lune, est parfait, immuable, éternel, sans défaut ni changement. L'observation de la supernova, clairement au-delà de la Lune, qui reste visible pendant des mois, puis disparaît, réfute donc bien cette hypothèse d'immuabilité. L'univers change donc, les étoiles naissent et meurent. Mais contrairement à ce que Kepler pensait, cette étoile nouvelle n'est pas une étoile qui naît, elle est plutôt une étoile qui meurt. Alors que se passe-t-il dans la vie d'une étoile ? Les étoiles se forment à partir des nuages interstellaires constitués de particules élémentaires qui se contractent sous l'effet de la gravitation. Les particules s'attirent les unes les autres, s'agglutinent, de plus en plus nombreuses, et plus elles sont nombreuses, plus elles attirent d'autres particules. Lorsque l'étoile en formation est suffisamment dense, la pression qui règne au cœur de celle-ci déclenche les premières réactions de fusion. On parle de proto-étoiles. Ces proto-étoiles naissent en général dans des nuages capables de former des centaines d'étoiles en même temps, comme par exemple la nébuleuse d'Orion. En fonction de leur masse, les étoiles évoluent différemment. Plus elles sont grosses, plus leur vie sera courte et intense. Néanmoins, elles passent toutes par une phase dite de séquence principale. Durant cette phase, l'étoile est en équilibre hydrostatique, c'est-à-dire qu'elle subit deux forces qui s'opposent et qui la maintiennent en équilibre. D'une part, les réactions de fusion au cœur de l'étoile, les réactions thermonucléaires, qui vont tendre à pousser les molécules vers l'extérieur, et d'autre part, la gravité qui a tendance à se faire se contracter l'étoile. Quand ces deux forces sont en équilibre, on maintient les réactions nucléaires au centre de l'étoile et on prévient tout emballement du cœur. Lorsque le cœur de l'étoile atteint une température de l'ordre d'un million de degrés, il devient le siège de réactions thermonucléaires. Vers 7 à 8 millions de degrés, la température est assez élevée pour que les noyaux d'hydrogène du plasma commencent à fusionner, pour donner essentiellement de l'hélium, suivant une réaction de fusion nucléaire appelée la chaîne proton-proton. Si l'étoile est suffisamment grande, plus de 6 fois la taille du Soleil, alors à la fin de sa séquence principale, elle va s'effondrer sur elle-même à très grande vitesse. Cet effondrement du cœur sur lui-même va s'arrêter grâce à la force nucléaire. En effet, au-delà de la densité du noyau atomique, la force nucléaire devient très répulsive. La matière qui continue de tomber sur cette partie interne ne peut plus la compresser. Elle rebondit donc et ça crée un choc. Ce choc qui se propage à travers les différentes couches de l'étoile. La vitesse de l'onde de choc augmente à chaque interface entre deux éléments. Lorsqu'elle atteint la surface de l'étoile, sa vitesse peut atteindre la moitié de la vitesse de la lumière. C'est alors que la matière est expulsée et que l'étoile devient une supernova. Alors, ce phénomène est extrêmement bref, ça dure quelques millisecondes, mais la luminosité émise, elle, peut durer plusieurs mois. La supernova peut rayonner plus d'énergie qu'une galaxie, voire que plusieurs galaxies entières. C'est la raison pour laquelle une supernova se produisant dans notre galaxie, voire dans une galaxie proche, est souvent visible à l'œil nu, parfois même en plein jour. Les supernovas ont joué et jouent encore un rôle essentiel dans l'histoire de l'univers, car c'est lors de son explosion en supernova que l'étoile va libérer les éléments chimiques qu'elle a synthétisés au cours de son expérience. Et aussi des éléments encore plus lourds qui ont été créés pendant même l'explosion. Ces éléments sont ensuite diffusés dans le milieu interstellaire sous forme de vent stellaire, les particules étant éjectées à grande vitesse. De plus, l'onde de choc d'une supernova va favoriser la formation de nouvelles étoiles en provoquant ou en accélérant la contraction des régions du milieu interstellaire, relançant ainsi un cycle d'étoiles. La matière expulsée par une supernova s'étend dans l'espace en formant un type de nébuleuse appelée rémanent de supernova. Alors la prochaine supernova qu'on pourra observer sera-t-elle Antares ? Ou peut-être Bételgeuse dans la constellation d'Orion ? Nul ne peut le dire. Ce qui est sûr, c'est que quand elles exploseront, nous les verrons pendant des mois briller intensément. Peut-être aurons-nous même la chance d'en voir une avec nos propres yeux ?